pass for silent night and minute, a silent night and minute, a silent night and minute. It'll only last for silent night and minute, it'll only last a while. We could stay here forever and then get together.
Manquez pas la troisième édition de la Biennale internationale d'art numérique du 3 juin au 3 juillet et la 17e édition du festival Electra du 1er au 5 juin sous le thème Automata, l'art fait par les machines pour les machines à l'Arsenal Art Contemporain. Découvrez plus de 60 œuvres et performances dont Inferno, les 25 exosquelettes de Louis-Philippe Demer et Bill Vorn. Rendez-vous pour la nuit Automata le 3 juin à l'Arsenal. Plus d'infos, bianmontréal.ca.
Du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Medley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King,
Fred Dubé,
Yannick Demartino,
Gabriel Garot,
Didier Lambert,
Jean Beauchesne,
Daniel Grenier,
Chantal Lamarre
et plusieurs autres.
Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com. L'Auto-Québec présente la 30e édition anniversaire du Festival international des Nuits d'Afrique à Montréal. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 12 au 24 juillet. Profitez des forfaits spectacles et découvrez toute la programmation sur www.festivalnuitsdafrique.com.
Écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bienvenue à cette édition assez particulière de Pop en Stock. En fait, pour les gens qui ne sont pas familiers, donc peut-être 80% de la salle, le projet de Pop en Stock, en fait, est une extension d'un laboratoire de recherche sur les objets de la culture populaire à l'UQAM, mais n'est pas inclus seulement à l'UQAM, parce que mon cher collègue ici fait partie d'une grande cohorte de l'UDM. Et une importante, une imposante cohorte de l'UDM.
Ben oui.
Le chandail de Zungrami. Salut Mathieu, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on se donne comme vocation et comme mission, c'est qu'à tous les semaines, on décortique, on analyse et on surinterprète un objet de la culture populaire. Et on travaille avec des équipes flottantes, essentiellement. Puis quand on a vu la programmation et les invités spéciaux, plus les événements qui sont soulignés par le FBDM, on a constaté que nous étions, pour la vaste majorité des participants à Pop en Stock, des grands fans des trucs qui se passaient. Donc, moi, j'ai travaillé sur Jean-Paul Hyde pour ma maîtrise. Mathieu, toi, as-tu étudié Chester Brown?
Non, pas du tout. Probablement là que je vais l'étudier, oui. Je fais une thèse de doctorat en ce moment sur la bande dessinée à l'UDM, puis il va fort probablement en faire partie, oui.
C'est ça. Ça fait qu'on a cette espèce d'a priori très, très fasciné et très passionné par rapport au truc. Aussi, bon, pour souligner le 20e anniversaire de Conundrum Press, qui est une maison d'édition expérimentale assez intéressante, de même que pour Mécanique Générale, moi, pour la majorité des gens que je connaisse, l'introduction à la bande dessinée québécoise se fait à travers Mécanique Générale, qui, eux, fêtent leur 15e anniversaire. Et tantôt, on va avoir la chance d'avoir Alexandre Fontaine-Rousseau qui va venir nous jaser
du 5e anniversaire de Pow Pow.
Je suis débilité par ce 5 ans-là. J'ai aucune idée comment ils ont réussi à accomplir autant de trucs en si peu de temps.
Ah, c'est absolument incroyable.
Je ne peux pas imaginer que ça fait 5 ans que Yves Leroy de la Grosse est sorti. J'ai l'impression que ça m'a accompagné durant mon adolescence. Et pour les gens dans la salle présentement, vous voyez que ça fait clairement plus que 5 ans que je l'ai passé, ce stade-là, dans mon existence. J'étais comme, wow, ça m'a hanté, ça m'a habité. Donc, essentiellement, pour la prochaine heure, qu'est-ce qu'on va faire, c'est de partager nos impressions, voir un peu en quoi est-ce que ces sujets-là, mis à l'avant par le Festival de la bande dessinée de Montréal, nous intéressent et sont des objets intéressants. Mathieu va parler de Chester Brown, je vais parler de Jean-Paul, puis Alex va parler de papa. Oh, papa. Tu veux-tu commencer?
Vas-y.
Ah, OK. Moi, je peux bien. C'est juste que ça me prend énormément. J'ai un modérateur émotif qui est très fragile, notamment quand vient le temps de parler de Jean-Paulide. Petite plug rapide comme ça, à 3 heures, je vais animer le panel avec lui. Ben, en fait, le masterclass. Il faut que je me calme, il faut que je me contienne. Parce que je peux devenir très palpitatif autour de lui. J'ai une passion pour son travail, j'ai un respect pour l'individu qu'il est et l'individu qu'il est en tant qu'humain, j'ai un respect pour l'individu qu'il est en tant que créateur. J'aime énormément son corps de travail, encore.
J'aime son corps.
Ouais, je vais faire une petite pause de comme... j'en ai parlé encore ce matin avec Philippe Saint-Germain qui se promène, qui lui le connaît un peu moins. En fait, pour le Festival de la bande dessinée de Montréal, cette année, on soulignait le 30 ans d'existence du personnage de Jérôme Migrant, qui est le protagoniste principal de la majorité de son corpus, si on peut dire. C'est un personnage qui a commencé dans les pages de Crow, et même un peu avant, si je me fie à quelques informations qui m'ont été apportées par Michel Viaud. En fait, il y aurait un strip, en fait, une histoire courte que Jean-Paul a illustrée, dans lequel un chauffeur de taxi a une face de proto-Jérôme. Donc, c'est un personnage qui existe depuis très, très, très longtemps et qui, à mon avis, est très important dans le panorama de la culture québécoise, à un point tel qu'on pourrait dire que c'est Jérôme Migrant qui représente tout ce que... en fait, toute cette inclusion dans le théâtre absurde du quotidien comme Les Voisins de Louis Saillat. Je fais beaucoup de parallèles entre la pièce de théâtre Les Voisins et qu'est-ce que Bigorat fait dans ses aventures dans Bungalowpolis. Rapidement, Bungalowpolis, c'est une immense satire sur la banlieue. C'est un travail, non pas sur l'ennui, mais sur la... Qu'est-ce que l'on doit faire pour sortir de l'ennui ou jusqu'à où on est capable de se rendre quand on s'ennuie de l'échappatoire de l'imaginaire, mais en parallèle, en fait, parce que c'est à la fois chez le personnage de Jérôme qui est en amour avec sa tondeuse, qui a un truc pour la conformité, qui doit outrepasser les codes de la bande dessinée pour être capable de s'en sortir. Fait que la bande dessinée est extrêmement métafictionnelle. Le courant de métafiction, c'est quand la bande dessinée est consciente d'elle-même et Bungalowpolis, tel qu'il existe maintenant là, dans Des tondeuses et des hommes, publié chez La Pastèque, c'est le plus beau répertoire de métafiction, à mon avis, en bande dessinée québécoise. On dirait que durant les 30 années d'œuvre avec le personnage, ben, pas tout à fait 30 ans, là, mais à peu près une vingtaine d'années, Jean-Paul était continuellement en train de se demander comment est-ce qu'il pourrait passer, comment est-ce qu'il pourrait pousser, comment est-ce qu'il pourrait innover. Et chaque strip est une technique. Chaque strip est comme, voyons voir si on est capable de faire une planche, bon, une planche qui est assez célèbre maintenant, la planche transparente. Donc, il y a une communication qui se fait avec des fantômes et on la voit. On peut seulement être au courant de ce dialogue-là si on présente la page devant une lumière. Donc, une vieille technique de littérature jeunesse que M. Hyde a ramenée à la bande dessinée. Mais, rapidement, par rapport à l'hypothèse que j'explore dans ma maîtrise, c'est cette idée-là que le plus que la bande dessinée devient métafictionnelle, le plus qu'il y a un parallèle qui se fait avec le théâtre. Et on sait très bien qu'en bande dessinée, on utilise beaucoup le cinéma comme point de repère. On parle de découpage, on parle de montage. Il y a une filiation assez rapide qui se fait entre le cinéma et la bande dessinée, notamment via le storyboard. Mais en regardant Jean-Paul, à mon avis, en fait, ça reste à se vérifier. Moi, je suis pas mal convaincu de ça. On se rapproche beaucoup plus d'un théâtre dessiné que d'un film. Évidemment, la pratique métafictionnelle, elle existe en cinéma. Là, Jodorowsky l'a fait à l'os, puis et ainsi de suite. Mais chez Jean-Paul, les coulisses apparaissent. Bon, les coulisses encore au cinéma, on a vu ça chez Greenaway. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus... qui a une plus grande apparenté à un théâtre dessiné chez Jean-Paulide qu'à un cinéma. Il n'y a pas vraiment de caméra. Il y a une mise en scène, il y a une spectature qui fait qu'on a toujours l'impression que que la planche est un décor. Puis là, je dis ça, puis pour les bons lecteurs du corpus de Hit, vous le savez qu'il y a littéralement des strips où il y a un décor. Il y a des moments où Jérôme claque la porte tellement fort que le décor tombe. Il y a un moment aussi où il vend le décor. Il y a un moment où il va derrière le décor, puis c'est le tournage d'une série d'espionnage. Le décor théâtral revient souvent dans le corpus de Jean-Paul. Et c'est ça qui est, à mon avis, le grand embrayeur pour commencer à concevoir la BD de Hyde comme du théâtre dessiné. Aussi, bon, la métafiction, ça nous vient de Brecht. La coupure brechtienne est très, très, très présente. Jérôme est toujours en train de parler à l'auditeur, au spectateur, au lecteur. Puis, bon, tel que ça avait été conçu par Brecht, c'était quelque chose de très, très, très politique. À mon avis, il y a une lecture politique qui peut être faite de Bungalowpolis, notamment en dénonciation de tout ce qui se fait par rapport à l'ennui incroyable et invivable de la banlieue. Ça, c'est mes opinions personnelles. Si vous les partagez, c'est vraiment le fun, mais je trouve que c'est ennuyeux à mort, la banlieue. Mathieu?
J'aurais une question pour toi, en fait, parce que je connais très peu l'œuvre de Jean-Paul Hyde.
Sacrilège.
Oui, désolé. Puis, en fait, je me demandais, tu parlais beaucoup de procédés de distanciation brechtien par rapport à son œuvre.
Des gros mots.
Est-ce que... mais surtout, en fait, par rapport à des formes théâtrales, en fait, qui seraient reprises dans ces bandes dessinées, puis qui permettraient, du coup, de faire passer l'idée au lecteur qu'il y a cette espèce de récit métafictionnel, comme tu le disais. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a chez lui... est-ce qu'on est toujours dans un dispositif qui est justement théâtral, ou est-ce qu'on fait aussi référence au médium de la bande dessinée? Parce que, par définition, d'une certaine façon, les bris de quatrième mur sont toujours reliés nécessairement aux paramètres du médium d'expression. C'est-à-dire que, par exemple, au cinéma, quand on va faire ce bris de quatrième mur, on va souvent, je veux dire, faire du méta-cinéma.
Montrer la caméra,
puis vraiment toucher à des choses qui sont propres au cinéma.
Non, c'est une très, très bonne question, parce que c'est vrai que ça vaut la peine d'être éclairci. Il y a une bande dessinée dans la bande dessinée. Okay. Chez Bungalowpolis, que ce soit l'apparition d'effaces, que ce soit aussi l'utilisation de pastiches, Bigra, à un certain point, doit vaincre ou battre, ou du moins confronter Moufettman si on peut dire, Jérôme Bigra se pervertit en super-héros. Il devient Flamand Man, qui a un écusson très similaire à celui de Batman, sauf que c'est un gros flamand rose. Je pense que Jean-Paul le porte aujourd'hui, en fait, cet écusson-là, bien particulièrement. Il y a vraiment une réflexion sur la bande dessinée. Il y a des moments où il y a des exemples qui pleuvent, là, mais il y a des cases qui n'apparaissent plus parce que le dessinateur s'est endormi sur sa planche de dessin. Puis là, on a littéralement la photographie de quelqu'un. T'as cases inexistantes, t'as le récitatif qui est inversé, des gens qui jouent avec avec les bulles. Il y en a énormément. Puis je pense que tout ça atteint son paroxysme dans Le fond du trou. Ou là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec Le fond du trou, allez l'acheter parce qu'il est là, puis c'est un objet extraordinaire que Jean-Paul Hyde a conçu au grand complet comme un récit avec un trou littéral dans le centre. C'est la reprise d'une technique bien connue de Marc-Antoine Mathieu. Sauf que Marc-Antoine Mathieu, c'était une seule case qui avait ce trou-là. Pour Jean-Paul, il a décidé de pousser ça à 11, là, si on peut le dire, puis le trou traverse littéralement l'album. Jean-Paul étant tellement fin et tellement conscient de ses influences, Akefak est dans Le fond du trou.
Ah oui.
Le personnage lui-même, à un certain point, parce qu'ils sont tous en train de confronter leur propre trou narratif. Julius Corentin, Akefak, de Marc-Antoine Mathieu, est là, puis il est juste comme, non, ça, c'est pas mon trou à moi. Puis il joue d'autant plus avec ça parce que le trou dans le centre de la bande dessinée permet des ellipses temporelles, des ellipses spatiales et des ellipses intertextuelles. Fait qu'on peut passer d'une place à une autre, on peut passer d'un temps à un autre, mais on peut passer d'une bande dessinée à une autre. Fait qu'essentiellement, on pourrait aussi voir Le fond du trou comme la grosse BD Carrefour qui est dans le centre de tout et qui tire à la fois Tintin, qui tire à la fois Marc-Antoine Mathieu. Non, il est très habile. Et évidemment, là, j'arrive au point où je me mets à le vanter outre mesure. Il n'est pas ici, ça fait que j'ai le droit. Puis même s'il était ici, je pense pas qu'il pourrait m'en empêcher. J'ai souvent l'impression que des gens qui utilisent, ou du moins qui se font une réputation avec des gadgets comme ça, éventuellement s'épuisent, éventuellement atteignent le propre fond de leur créativité, sont plus capables de se réinventer, ou du moins le gros punch initial se dilue, puis on réussit plus tout à fait à avoir capturé la foudre dans la bouteille, comme j'en parlais tantôt avec Philippe. Je pense notamment à M. Night Shyamalan, pendant que je suis en train de dire ça. Jean-Paul n'a jamais de moment de ralentissement dans sa réflexion métatextuelle. Je vais même jusqu'à pousser l'audace à croire qu'il y en a dans La femme aux cartes postales. Donc, c'est un défi là, à vous tous d'aller regarder comment est-ce qu'il y a un travail métafictionnel qui se fait dans ce livre-là. J'ai des questions que je vais poser à 3 heures, puis je suis très curieux d'avoir ses réponses. Autant que c'est 30 ans de travail avec ce personnage-là, il n'y a pas de moment où on pourrait dire qu'il était sur le pilote automatique ou qu'il a trouvé un truc qui ne s'est pas déployé d'une bonne manière ou d'une manière avec le mot juste. Jean-Paul, on pourrait être porté à croire que c'est une fontaine inépuisable de créativité par rapport à la métafiction. Puis c'est quelque chose qui mérite d'être souligné parce que, autant qu'on trippe, là, l'espèce d'artiste qui, il est capable de jouer avec ça, il est capable de jouer avec ça, je remarque souvent un épuisement. C'est rarement, c'est pas du tout le cas chez lui. Puis ça me sidère. Puis ça fait aussi en sorte que c'est toujours amusant de réexplorer. C'est vraiment des beaux livres de chevet, de relire, parce que il y a des détails, il y a des ajouts, il y a des spécificités à sa bande dessinée qui sont peut-être pas visibles à la première lecture. Fait que c'est vraiment quelque chose de c'est une grande récompense de continuellement retourner. C'est peut-être juste moi là qui est obsédé, mais si c'est juste moi, c'est correct, je vis très bien avec.
Ouais, parlant d'obsession,
oui, exactement.
Des gens obsédés, parler d'un grand obsédé de la bande dessinée, dans le meilleur sens du terme, Chester Brown. Chester Brown, qui est d'ailleurs au festival en fin de semaine, sur le côté de la salle ici, il y a plusieurs de ses planches originales de sa dernière œuvre qui sont affichées, de Mary Wept Over the Feet of Jesus. Le titre complet en dit beaucoup plus, en fait, sur la nature de cette bande dessinée-là. C'est Mary Wept Over the Feet of Jesus, Prostitution and Religious Obedience in the Bible. En fait, tout le génie de cette dernière bande dessinée-là commence, en fait, pour moi, dès sa couverture. Bon, là, les gens qui nous écoutent ne pourront pas la voir, mais c'est pour une fois qu'on a un public, c'est.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Ça ici. Qui est à la fois, en fait, déjà une espèce de calembour visuel, à mesure où est-ce que là, on a clairement une forme vaginale.
Ouais.
Puis, quand on la tourne, ça devient le poisson des premiers chrétiens. Le poisson là, qui leur permettait de se retrouver dans les villes puis de se donner rendez-vous dans des lieux secrets pour échapper aux méchants romains. Ce qui est intéressant, en fait...
Je ne verrai plus jamais un bumper chant de la même manière. À chaque fois, je vais être juste comme...
Puis, ce qui est intéressant chez Brown, en fait, pour les gens qui le connaissent plus ou moins, c'est que c'est quelqu'un qui, très ouvertement, depuis plusieurs années, est un quand même assez ardent défenseur des droits pour les travailleuses du sexe, travailleuses et travailleurs du sexe. Puis, il en a d'ailleurs fait une bande dessinée, Paying for It, où il retrace, en fait, de manière assez sincère, assez touchante, ses propres rapports avec les travailleuses du sexe. Encore, là, il était ici hier, puis pendant une causerie, puis c'est quelque chose dont il parlait assez ouvertement. Puis ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est qu'il est constamment, en fait, à la recherche de personnages qui sont en proie à des démons intérieurs, qui ont toujours une forme de... c'est quelque chose qu'on voyait bien dans son Louis Riel. C'est quelqu'un qui essaie beaucoup de travailler la psyché de ses personnages, d'aller au fond de leurs démons, de leurs pulsions, de ce qui, dans le fond, compose un individu, puis de la manière dont l'individu peut réprimer ses propres pulsions, en fait, de désir, que ce soit des pulsions sexuelles ou autres. Dans Mary Wept Over the Feet of Jesus, le constat de Brown, c'est de dire que, dans le fond, dans la Bible, en fait, il y a beaucoup plus de cul qu'on aurait pu le croire dans la Bible. Que, dans le fond, c'est son hypothèse, que Marie, la mère de Jésus, aurait été une prostituée. Donc, il retrace, en fait, il passe en revue 7-8 récits bibliques qu'il adapte en bande dessinée. des récits qui mettent essentiellement en scène des prostituées et leur rapport avec des personnages de la Bible, que ce soit Job, le Christ, Caïn, puis Abel. Ils passent à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis, comme c'est Chester Brown, il y a, en fait, là, pour ceux qui sont là, il y a en fait toute cette partie-là de la bande dessinée qui compose ses notes de bas de page.
Aisément un quart.
Oui, oui, c'est un bon quart, un bon tiers de la bande dessinée. Tout lettré à la main, ce qui rajoute vraiment, là, c'est vraiment lettré à la main avec un vrai travail scientifique là, de citations, une longue bibliographie à la fin, un commentaire scientifique vraiment par moments digne d'un théologien. C'est assez impressionnant la somme de travail qui est dans ce livre-là. Puis ce qui était la même chose en fait aussi déjà dans Louis Riel, qui était une œuvre très documentée, une œuvre donc qui était une biographique puis qui racontait le soulèvement des métis de Louis Riel. Puis, chez Brown, en fait, dans ce dernier ouvrage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il interagit directement, justement, avec de nombreux textes qui sont évidemment très connus. On parle de la Bible. Il rebondit dessus, il les lit, en accomplissant un travail, en fait, qui est d'abord de recherche extraordinaire, un travail critique aussi, parce qu'il s'oppose, par exemple, directement à certains discours de théologiens ou à certaines doctrines, en fait, de l'Église catholique, en essayant de les renverser, en essayant de montrer que, dans le fond, toute la construction hyper restrictive du désir, puis des pulsions sexuelles qui sont à peu près tout le temps dans les discours religieux de nos jours réprimés, puis condamnés. Lui, il dit que dans le fond, c'est au centre de la religion, que c'est quelque chose qui lui appartenait déjà, puis qui n'était pas à l'époque, qui n'avait pas cette lourdeur symbolique-là à l'époque. Donc, c'est quelque chose qui lui a valu de recevoir 17 000 courriels de menaces ou de gens qui étaient fortement en désaccord avec la sortie de ce livre-là. En même temps, c'est ça. C'est pas du tout un livre qui est irrespectueux face à la religion, face aux personnages catholiques. C'est pas Chester Brown, c'est pas quelqu'un qui est ouvertement une espèce de punk athée qui veut juste s'amuser à aller fouiller dans la Bible, puis ouais. À désacraliser pour le plaisir de désacraliser. Non, au contraire. Puis c'est ce qui est toujours impressionnant dans ces... en fait, dans Mary Wept Over the Feet of Jesus, c'est qu'il parvient à conserver cette espèce de respect un peu irrévérencieux parce que c'est aussi quelque chose qui colle bien à son dessin, cette irrévérence-là. Mais il parvient à garder, en fait, des histoires qu'il adapte, le fond moral qui, dans le fond... était véhiculé dans ces histoires-là à la base. Donc, c'est une œuvre qui a beaucoup d'intertextes, pour le dire en termes scientifiques, avec la Bible, évidemment. Donc, ça en fait un travail, en fait, assez exemplaire, puis vraiment impressionnant. Mais un truc qui est... sur lequel j'aimerais m'attarder par rapport à Chester Brown, qui est assez intéressant, j'en parlais avec lui hier, c'est que d'année en année, il travaille toujours, en fait, avec les mêmes techniques depuis environ 25 ans. C'est-à-dire, puis c'est quelque chose qu'on peut voir sur le mur à côté de nous, ici dans la salle, c'est que Brown, c'est quelqu'un qui va travailler, c'est un peu comme du Photoshop sur papier, c'est-à-dire qu'il va travailler avec des couches de dessin. Puis là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il procède avec des papiers à tracer, puis il va dessiner. En fait, chaque objet, chaque personnage va avoir sa propre feuille. Il empile après ça ses différentes feuilles, puis il a sa case, puis il dessine case par case. Toute la bande dessinée est construite de la même façon, c'est-à-dire qu'on a affaire à des planches de 4 cases. La forme ne change pas du tout. Ça en fait, à la base, c'est un hommage au niveau de la forme aux bandes dessinées qui étaient distribuées dans les années 60, 70, 80 dans les églises, les petites bandes dessinées de catéchisme. C'est un hommage à ça. C'est quelque chose que Brown a longtemps collectionné puis qui l'a beaucoup touché. Entre autres aussi, il y a un choix assez audacieux, en fait, d'imprimer ça sur du papier journal. En fait, la BD est imprimée sur du papier journal, certes de qualité, mais ça reste du papier journal. Puis pour lui, en fait, c'était pour faire référence, dans le fond, évoquer les bandes dessinées de son enfance. C'est quelqu'un qui a longtemps collectionné du comic book américain, mais aussi des strips de journaux qu'il découpait. Donc, c'est ça. Puis, c'est par rapport à cette façon de travailler là, ce qui est intéressant, c'est que depuis donc 25 ans qu'il travaille avec ces couches de papier à tracer superposées, Brown en fait a de plus en plus recours à cette technique là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de feuilles. Dans Merriweather Over the Feet of Jesus, il y a même certaines cases qui sont composées de jusqu'à 21 feuilles pour une seule case. Donc 21 feuilles, donc une feuille pour le coffre dans le coin qui sert absolument à rien, une autre feuille pour l'urne, une autre feuille pour les oiseaux dans le ciel, pour les nuages. Donc tout est découpé. C'est vraiment pour ceux par exemple qui ont déjà travaillé sur Photoshop, c'est vraiment l'idée des layers de Photoshop qui est reproduit là sur papier. Puis la raison derrière ça, c'est que Brown, c'est quelqu'un qui veut, ça paraît dans ses cases, il veut être absolument maître des compositions qu'il fait. Donc, de procéder comme ça, ça lui permet d'ajuster très précisément, en fait, ses compositions, d'ajuster aussi précisément, en fait, le regard de son lecteur nécessairement, parce que comme ça, il peut, je dirais vraiment au millimètre près, ajuster ses cases pour qu'il soit équilibré, pour déplacer un phylactère, pour agrandir un peu la bulle, avoir un peu plus d'espace pour son texte. Donc, ça lui permet une malléabilité, d'une part, qui, lui, dans son travail, l'aide beaucoup. Mais d'autre part, en tant que lecteur, ce que je trouve, quand on suit la carrière de Brown, c'est que de plus en plus, ça donne à ses personnages puis à ses cases l'aspect un peu de petite figurine, en fait. C'est que cette technique-là, à mon avis, finit par développer de manière, chez le lecteur, consciente ou pas, une espèce de déformation entre les petites figures, entre la perspective, entre, par exemple, l'espèce d'épaisseur ou peut-être du manque d'épaisseur, en fait, qui vont séparer dans la profondeur de la case différents personnages ou différents lieux. Ce qui va vraiment en fait en faire une espèce de théâtre de petit bonhomme qui en fait rend ça très mignon, je trouve.
Ben oui, puis ça donne, aussi infime qu'elle soit, il y a plus de profondeur dans une bande dessinée de Chester Brown que dans une bande dessinée normale, aussi infime là, parce que là on parle de petits papiers de très très minces, là, pratiquement du papier cigarette, mais il y a un champ.
Oui, tout à fait, mais c'est qu'à la base, c'est pas la même manière de penser l'espace.
Mais non.
Quand j'en ai parlé, Brown me disait simplement que, pour lui, il s'en rend pas vraiment compte, c'est sa manière de travailler, et que c'est sûr que ça influence sa façon de dessiner. Puis, c'est évident que quand tu regardes ça, c'est pas du tout comme un dessinateur qui partirait, puis je sais pas, moi, dessinerait d'abord son arrière-plan, ou le ferait en dernier, ou on ferait pas du tout. Lui, étant donné qu'il doit penser chacune des épaisseurs de ses cases, chacun des plans de ses cases, ça veut dire que, nécessairement, il y a une conscience constante de ce qui est à l'avant-plan, ce qui est au plan, ce qui est à l'arrière-plan, puis comment ces différents plans, en fait, interagissent entre eux. Donc,
mais c'est ça, c'est que même si dans la planche finale, les proportions sont faites de manière graphique, il y a quand même dans la superposition de ces feuilles une affaire qui vient avant, une affaire qui vient après.
C'est ça, c'est nécessairement, oui, parce que ça ne peut pas cohabiter sur le même plan.
C'est ça.
Donc c'est vrai qu'il y a toujours un léger décalage. Oui.
C'est fantastique d'avoir une profondeur de champ dans une bande dessinée qui, aussi minime qu'elle soit, elle est là.
C'est qu'elle est là par sa pratique, par la manière dont il va travailler. Ça veut pas dire que il faudrait pas mal nous comprendre puis dire qu'il y a seulement de la profondeur de champ chez Brown parce qu'il travaille avec des épaisseurs de papier.
Non, mais il y en a comme un petit peu.
Mais il y a quelque chose, oui,
cette affaire.
Parce que justement il réfléchit le dessin par la profondeur de champ. Nécessairement en les empilant.
Ouais.
Donc, pour clore sur Brown, c'est ça, c'est sa dernière bande dessinée. Je la conseille fortement. Puis c'est ça, là, on a Alexandre Fontaine-Rousseau.
Bonjour Alexandre.
Édition Pau-Pau. Bonjour Alexandre.
Comment tu trouves Jean-Paul Hyde?
Quoi?
Comment tu trouves Jean-Paul Hyde?
Comment je trouve quoi?
Jean-Paul, tu Ah, OK. Ça, t'es en bonne place.
Je comprends. Il faut que j'aie une opinion sur...
T'es pas obligé.
J'étais pas préparé pour ça. Là, okay. Je suis venu faire ma salade. J'avais toute mon intervention super tête, vraiment préparée. Là, tu me déstabilises comme ça. Là.
On dit ça souvent de moi.
J'accepte plus jamais une de vos invitations, les gars. C'est comme... C'est un guet à
passer. Je fais de la radio déstabilisante, moi. Changer des pantalons, moi, aujourd'hui. On n'est pas en studio.
Des pantalons longs?
Non, ils sont courts, mais ils sont présents quand même.
Moi aussi, j'ai mis des pantalons courts ce matin. Puis finalement, peut-être que c'était un cas de pantalons longs aujourd'hui.
Non, pas dans ton cas, toi.
Non, mais je parle pas esthétiquement, je parle en termes de chaleur à l'extérieur. Oh, tu sais.
Ça.
On est ici pour parler de mode vestimentaire dans les festivals de bande dessinée.
Pourquoi pas? Ouais. Il y en a pour tous les gens.
Il y en a pour tous les goûts.
On a vu
les gens, oui, exactement. Fait que vous vouliez que je parle de quelque chose de pas absolument insignifiant. Genre, j'ai cru comprendre que c'est...
Ben, apparemment que c'est le 5e anniversaire de PowerPal.
Apparemment que c'est le 5e anniversaire de PowerPal. Peut-être que Luc pourrait raconter plus d'anecdotes vraiment émouvantes sur à quel point, quand il a parti PowerPal, c'était censé être juste pour éditer ses propres livres puis peut-être celui de deux ou trois de ses amis. Puis...
Oui, c'est vrai. Ah oui, c'était ça.
Mon Dieu, Jean-Michel. Oui, absolument. En fait, Luc, il a...
Homme de peu de parole.
Homme de peu de parole. Ben, parce qu'il est un petit peu comme toi, quand même. Il y a une voix qui peut être usée.
Ah oui?
Oui, oui.
Ah, je serais pas
obligé. J'aimerais vraiment ça, voir une conversation dans un bar. C'est toi puis Luc qui essayent de se parler dans un bar après une dure journée, tu sais, avec la voix usée d'un raid. Ça serait malade.
Non-verbal.
Il y a un sitcom à faire avec ça. C'est annulé au bout de quatre épisodes, là, mais...
Oui.
Parce que les gens sont juste comme on n'entend pas ce qui se dit dans cet épisode.
C'est long, je pige pas.
Mais c'est pas grave.
Je le savais pas.
Mais oui, non, c'est ça. En fait, c'était comme un peu genre... En fait, il y a peut-être des anecdotes que je suis même pas censé... Mais tu sais, au début, c'était comme un projet fantoche.
Il peut pas t'empêcher.
Il voulait suivre un cours d'entrepreneuriat. Puis là, il avait besoin d'inventer un projet, tu sais, pour avoir un projet. Là, il était comme, ça va être une maison d'édition, ça va s'appeler Papa. Puis là.
Ah!
My God, j'ai l'impression que j'aimerais pas dire ça. Mais fait, c'est ça.
Super!
Là, à un moment donné, ça va devenir sérieux. Je vais éditer Yves Leroy de la Cruz, puis Apnée. En fait, Yves Leroy de la Cruz, hey, c'est de Vianne, ça te tente-tu d'éditer aussi Apnée? Ah, ben oui, OK, on est donc. Michel Hellman, back à back des En Weydon. C'est 5 ans de En Weydon.
Ben oui,
c'est ça. Et le dernier En Weydon, c'est traduire des livres en anglais. Ah oui, En Weydon.
C'est vrai que c'est un En Weydon. Hein?
C'est rien que des En Weydon. C'est ça la vie, hein? C'est En Weydon jusqu'à la mort.
Mais encore, tu vois, je reviens à ce que je disais par rapport à Jean-Paul. Tu sais, c'est abasourdissant de réussite. Il n'y a pas de mauvais titre de Papam. Autant que c'est dans la légèreté, dans le gars, on va essayer ça, ouais donc. Il n'y a pas de mauvais titre. Tout simple, c'est tout.
Ben, je suis d'accord avec toi. En même temps, je veux dire, je suis ici pour faire la promotion des livres.
Ouais.
Il y en a un, là, je te dis.
Je te dirais pas, là.
Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne moyenne au bâton.
Exactement. C'est la meilleure métaphore possible. Il y a un excellent
point. C'est toujours une bonne métaphore. Les métaphores de baseball, puis les métaphores de. Non, j'avais un autre sport que.
Oh non, je pense que tu peux faire un sport, puis après ça, faut que tu fasses autre chose. T'sais, ça peut être un sport et une métaphore de cuisine. Cuisine, c'est pas un sport, mais c'est pas loin.
C'est un art.
C'est un art.
L'art culinaire.
Quel autre registre de métaphore que tu peux utiliser?
Le En Weydon, ça s'étend à genre de quoi on va parler en ce moment devant ce. Oui. Mathieu, d'un professionnalisme toujours exemplaire, essaie de nous ramener vers le droit chemin, oui.
Non, mais parle-nous donc pourquoi décider de traduire Papa en anglais maintenant? Est-ce que c'est pour vous lancer dans le marché nord-américain?
Oui, bien en fait, c'est sûr que si on est vraiment honnête, le marché québécois a beau être généreux et les gens vraiment enthousiastes. Je veux dire, t'arrives vite à bout des ventes qui peuvent se faire dans le marché québécois avec des livres qui sont quand même dans un grand public, mais de niche malgré tout. Je veux dire, les gens... Il commence à y avoir des... Je veux dire, on a l'impression de plus en plus que les gens savent qu'il se fait de la bande dessinée pour adultes, mais après ça, moi, j'ai travaillé 2 ans en librairie, puis je peux te dire qu'à chaque jour, t'apprends à quelqu'un que ça existe, puis il te regarde en disant « Ben non! » Je me rappelle même une fois, le directeur du département s'était littéralement fait traiter de menteur par une cliente qui disait « Vous me mentez, monsieur! La bande dessinée, c'est pour les enfants! » Non, je vous jure, madame, regardez ce livre-là, c'est pas pour les enfants. Vous me mentez! Elle était sortie du magasin outrée. Fait que, tu sais, il y a encore de l'éducation à faire. C'est ça la morale de l'histoire. Tu sais, nous autres, on a la profondeur de champ dans Chester Brown, là, mais moi, dire, le travail, il faut qu'il se fasse comme. Encore. Mais fait que c'est ça. Ouais. À un moment donné, là, il y avait deux options. C'était le marché européen, mm-hmm. puis le marché nord-américain. Ben, concrètement, il y a moins d'océans entre le marché nord-américain et le marché québécois, il y a moins qu'entre le marché européen et le marché québécois. Et les océans, c'est très dur à traverser, mine de rien.
Et ça perd des boîtes.
Soit en bateau, soit en avion, mm-hmm. contrairement à des voitures. Ouais. Donc là, tu sais, puis je veux dire, TCAF, c'est pas loin, là, c'est 5 heures de route. C'est vraiment une super belle porte d'entrée.
C'est le Toronto Comics Arts Festival. Mm-hmm.
Si vous avez jamais été à Toronto, je veux dire, c'est une belle... si vous voulez faire du BD tourisme, ouh. Aller au TCAF, c'est vraiment une belle... c'est trois étages de bande dessinée. Il y a du stock, les gros éditeurs indépendants. Il y a aussi des gars comme Chip Zdarsky qui sont là. Puis en même temps, t'as comme énormément de... l'underground nord-américain se rejoint à TCAF là, quand même. Là, fait que c'est un super beau festival. Bien, en tout cas, fait que le marché nord-américain, en bout de ligne, avait l'air plus naturel... à la limite que le marché. Puis le marché européen est super saturé. Il y a énormément... Ouais. Quand on parle à des... Je me rappelle, je parlais à Max de Radicals qui s'occupe de l'employé du mois, qui est une maison d'édition belge. Puis, tu sais, quand on lui donnait les chiffres de vente des meilleurs vendeurs de pawpaw, c'était des meilleurs chiffres de vente que les meilleurs vendeurs de sa maison d'édition, qui n'est pas une petite maison d'édition. L'employé du mois, c'est quand même une pas pire grosse. Mm-hmm. Mais, tu sais, lui, son meilleur vendeur, c'était... Pierre Morel. Black qui vient d'être traduit par Conundrum récemment.
Qui fête leur 20e anniversaire.
Ben oui, bravo Conundrum. Mais c'est un oiseau, c'est Black quelque chose. En tout cas, ben, c'était le meilleur vendeur de Max, puis il avait moins vendu que les meilleurs vendeurs de Papa. Fait qu'on se disait, ah, ben, le marché européen d'auteur, il est quand même, il a l'air un petit peu rough aussi. Ouais. Fait que, ben c'est ça. Puis juste à Montréal, je veux dire, c'est con, mais quand t'es à un événement comme Exposine, t'as la moitié des gens qui passent devant ta table qui achètent pas les livres parce qu'ils sont en français puis qu'ils lisent pas le français. Ouais. C'est quand même une ville où il y a une... Fait que c'était juste comme un move naturel, là, puis c'est devenu un way-don.
Mais au-delà du move naturel, c'est que, encore pour comme fesser le clou bien comme il faut, les livres sont de qualité exceptionnelle. Tu sais, c'est ça, c'est que en cinq ans, tu sais, il y a tellement de gens qui ont travaillé chez Pawpaw, puis qui ont tellement comme, un peu à la manière de 36 Chambers Shaolin, de Wu-Tang Clan, tu sais, vous êtes toujours en train d'essayer de devenir, il n'y a pas une compétition, mais tu sais,
Mais t'es-tu en train de faire une métaphore de Wu-Tang Clan?
Oui.
Parce que moi, je trouve que je suis d'accord avec toi.
Oui.
Pour les premiers albums solo aussi. Oui. Mais tu sais, ça s'est fait à un moment donné. Là, je veux dire, The W, c'est pas un si bon disque que ça. Le vidéoclip pour le tu sais, la toune. Le premier single de ce disque-là, c'était comme une toune spin-off pour le film des pierres à feu. Là, puis on sait ce que ça a donné, ça.
Ben, je vous souhaite de vous rendre.
Gravel Pit, c'est ça. Gravel Pit, c'est pas la meilleure toune du Wu-Tang. Puis je veux dire. Ça finit avec Martin Shkreli qui achète un album à genre 4 millions. Fait que, c'est quand même une histoire triste.
Si vous rendez là, ça va être extraordinaire.
Si jamais on finit par sortir nos albums en exemplaires uniques et les vendre à 4 millions de dollars, on va avoir pris une drôle de dérape, je trouve. Surtout si on les vend à Martin Shkreli.
Oui, mais ça va célébrer. Non, c'est plutôt cette idée-là que d'avoir été... Puis là, le comparatif se fait avec une forme de think tank. Là. Papa, c'est très comme... je pense que vous profitez énormément de pas des expertises de l'une et de l'autre, mais comme vous vous influencez en nous autres, fait qu'inévitablement le produit devient meilleur.
Mais je sais pas pour les influences. C'est sûr qu'il y a des influences, ben, là, c'est naturel, puis tout le monde. Oui, oui. Mais je te dirais qu'il y a surtout, au-delà de l'influence, il y a surtout comme l'impression que t'es pas. La bande dessinée, c'est quand même un art solitaire.
Oui, comme l'ours.
Comme l'ours, à l'instar de l'ours. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs de bande dessinée se représentent comme des ours et ou utilisent l'ours comme animal totem. On pense à Michel Hellman, par exemple.
Absolument.
Mais j'espère que quelqu'un un jour va faire un mémoire de maîtrise sur la figure de l'ours en bande dessinée comme représentation de l'auteur.
Quelqu'un ici?
Académicien.
Mademoiselle?
À vos études.
Job pour
mais... Hey. Non, excuse, je m'attendais pas à ça. C'était le deuxième café-là m'a vraiment mis dans zone. Puis...
Le strike zone?
Ben oui, mais je pense que c'est surtout ça, c'est de l'espèce de solitude, combattre l'espèce de solitude avec une impression de que t'es pas tout seul à faire ça, puis l'espèce d'aspect de famille. Là. Après ça, pour les influences, peut-être qu'il y en a pas, je ne sais pas. C'est peut-être à d'autres mondes de les voir, puis de les. Tu parles pas d'influence
statistique
ou formelle.
Non, cette idée-là vraiment de. Parce que je.
Ben, on s'influence, c'est sûr, quand on sort, on s'influence. Tu sais, je vais peut-être aller me coucher, puis là, j'influence quelqu'un à prendre une autre bière. Là. On s'influence beaucoup dans cette mesure-là. Là.
Non, mais quand même, par rapport, me semble être. Ben, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit voit beaucoup dans la bande dessinée, mais c'est vrai qu'il y a un peu des auteurs récurrents, là, puis ils sont vraiment pas des abonnés de la maison d'édition, là, mais ça finit au fil des ans par former une espèce de famille par rapport.
Oui, absolument. Oui. Ça, je suis d'accord. Puis je pense que ce qui est vraiment bien avec Luc en tant qu'éditeur, c'est qu'il fait vraiment confiance à ses auteurs. Il les appuie d'une manière... T'arrives... Tu dis à Luc que tu as un nouveau projet puis il a déjà travaillé avec toi. Son réflexe, c'est pas de te dire on verra bien. Là, c'est, il est vraiment excité. Il a hâte de voir ce dont il en retourne. Mm-hmm. Puis il a déjà hâte de te donner le feu vert avec enthousiasme en disant j'ai déjà hâte de lire le livre. Puis je pense que c'est un. Je pense que c'est. La première qualité d'un éditeur, c'est d'être un lecteur enthousiaste. C'est quand même le premier lecteur de ton livre. Puis. Tu sais, Luc, c'est le genre de gars, t'arrives, puis mettons, t'as 40 pages de scénario. Puis là, tu dis, ça te tente-tu de lire les 40 premières pages de mon scénario? Il va pas te dire, ouais, c'est correct, hein? Il va te dire, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Peux-tu, comme, me finir ce scénario-là demain pour que, genre, comme, je puisse finir l'histoire? Parce que là, je l'ai commencé, puis j'ai hâte de lire la suite. Tu sais, c'est ce genre d'enthousiasme-là, c'est pas un enthousiasme de.
Ouais,
de ouais, puis il voit pas ça en grille de performance. Mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de fidélité aux auteurs. Puis je pense que c'est sûr que ça développe aussi les auteurs d'une certaine manière. Je veux dire, pour moi, un livre comme White Horse de Samuel Quentin, ben c'est du Samuel Quentin qui se rend compte qu'il peut faire un livre deux fois plus long, deux fois plus bavard, puis il y a personne qui va lui dire « Ouais, il est peut-être temps que tu coupes dans tes dialogues. » Tu sais, je veux dire, c'est absurde, là. Je veux dire, la première scène de White Horse, je pense que c'est comme 60 pages du même dialogue qui finit plus, tu sais. Il ouais. y a des humains qui diraient que c'est trop, mais pas Luc Bossé, puis pas, je pense pas les lecteurs, en bout de ligne.
Et ça va de même aussi pour La Guerre des Arts.
Bon, c'est le genre de projet qui sort un peu, tu sais, que beaucoup de gens... Puis tu sais, c'est un livre assez difficile à vendre aussi, là.
Oui,
il faut,
c'est bon!
Mais c'est ça, c'est un livre que je pense qu'il est prêt à faire des... Tu sais, il édite pas des livres qui vont bien se vendre, il édite des livres qu'il aime. Puis en bout de ligne, ça donne aussi des livres qui peuvent bien se vendre.
C'est
mais,
ça.
Mais je veux dire, la décision, c'est j'aime ce livre-là, je suis prêt à le backer. Puis il éditerait jamais un livre qu'il aime pas, ce qui est aussi vraiment une...
Très bonne décision.
En bout de ligne, c'est une qualité. Le lecteur peut faire confiance aux sélections. S'il se rend compte qu'il est d'accord avec les goûts de cette personne-là, je pense que c'est ça. Il y a une fidélité avec les auteurs, puis je pense que ça peut devenir une fidélité avec les lecteurs. Mmh. Puis je veux dire, moi, ça fait quand même...
Et en même temps, ça fait qu'on voit, comme par exemple, pour rebondir sur Samuel Quentin, quand on prend son premier album jusqu'à White Horse, en passant par Ville et Misérable, c'est vraiment un auteur qu'on a vu apparaître chez Pawpaw, puis qu'on a vu progresser puis évoluer de manière absolument folle. Là,
oui, bien, puis en fait, c'est vraiment drôle, parce que moi, Samuel, je travaillais dans un club vidéo avec lui, puis il était en train de travailler sur le blog de Phobie des moments seuls. Puis là, à un moment donné, il fait juste me dire « Ah, il y a un gars qui veut éditer mon livre, c'est Luc Bossé. Ah, vas-y, tu sais, va te faire éditer, je sais pas. » Il est vraiment smart, ça va bien. Mais tu sais, moi, je m'en rappelle quand Sam, il faisait ça, c'était un blog, là, Phobie des moments seuls, puis il n'y avait pas... c'était pas en vue d'être édité. Puis ça, c'est Sophie Bédard aussi, le premier Glorieux Printemps. D'ailleurs, tu le vois, le premier tome, c'est plus un recueil de blogs, puis au fur et à mesure que la série avance, ça devient plus des livres qui sont... Mais c'est ça, il y a eu des bons... Il a été ramassé des gens qui faisaient du blog parce qu'ils aimaient leur blog.
Ouais, parce qu'ils suivaient.
Michel Hellman aussi, en fait, Myland.
Je ne sais pas si c'était un blog, ça.
Myland, c'était beaucoup du stock du blog de Michel Hellman qui est devenu un... C'est, ah, ben je pense que... Puis, tu sais, en fait, le livre devient un peu ça. Ça devient... c'est des années de blog qui deviennent...
Comme ping-pong.
Ping-pong, oui. Sauf que ça, c'est déjà plus... Je pense que Sylviane, quand elle faisait ping-pong, elle savait qu'elle allait faire un fanzine avec ça. Mais oui. l'idée de la version commentée, c'est des idées d'édition vraiment assez...
Vraiment audacieuses, vraiment intéressantes, oui.
Pis c'est drôle, c'est, ben en fait, parce que vous êtes en campagne de sociofinancement, la deuxième vague pour la traduction en anglais.
Oui, parce que c'est de ça.
Oui, c'est de ça qu'on venait parler.
C'est de ça qu'on venait parler, non de Wu-Tang Clan.
Mais je pensais, je suis correct. C'est drôle parce que toute cette idée-là, pour les gens qui ne l'ont pas suivi, la première campagne, quand que ça s'est terminé, en fait, je pense que c'est le dernier, peut-être pas 24 heures, c'est un peu intense, mais le dernier 12 heures.
Le dernier 12 heures.
Vous l'avez tous vécu ensemble. À prendre des photographies,
fait,
à se promener avec des photos, à prendre des photos dans des appartements.
Luc, Sylviane. Je pense.
C'est tout?
tout.
Sophie, non, t'es pas là?
Non, je pense. Je me souviens. Il y a des photos. Il y a une photo. À chaque fois, il fallait prendre une nouvelle photo de plus en plus absurde. Ça finit avec moi dans une douche, puis si on dépassait tel temps, la douche m'arrosait pendant que j'étais... C'était n'importe quoi.
C'était pas n'importe quoi.
Je pense que les gens, ils ont, à la fin, ils faisaient juste mettre de l'argent pour me voir manger une schmop d'eau d'en face. Il y a une photo de moi en robe de chambre dans la rue pendant une tempête de neige. Là. C'était n'importe quoi.
Non, c'était pas n'importe quoi.
J'ai l'air du Big Lebowski là-dessus.
Encore, c'est tellement pas un problème. Je trouve pas que c'était n'importe quoi. Là, je ne trouve pas que ce n'était pas n'importe quoi. T'as pas.
Mais ouais.
La deuxième campagne de financement, c'est pour quel livre?
Les quatre livres qui sont... Le premier livre, c'est 23h72.
Okay.
Après ça, La guerre des arts. En fait, c'est ça. L'idée, c'était de faire une moins... La première campagne, c'était 20 000 $ le premier objectif. Là, on s'est dit plus petite campagne à 9 500 avec plus de stretch goals plus goals. Rapide. Puis en fait, ce qui est le fun avec cette formule-là, c'est que vraiment rapidement, on arrive à un moment où si tu as pris le package... 3 livres.
Ouais, le 50 piastres, là,
enfin, non, le 79.
Ah oui, OK.
À chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui se libère, ben il va dans... Tu sais, puis tu payes pas plus cher. Fait qu'il y a quand même... Il y a vraiment moyen de se ramasser avec beaucoup de livres si la campagne... donc, je vous encourage non seulement à donner à la campagne, mais à comme faire de la promotion pour que ça devienne viral puis que tout le monde finisse par... Mais c'est un peu ça, l'idée.
Mais j'aime cette idée-là de faire une campagne Kickstarter sur des stretch goals cachés.
Ouais. Ben, d'ailleurs, j'ai volé toutes les punches un peu, là. J'ai dit qu'il y avait la guerre des arts. Mais je sais pas.
Non, la guerre des arts, il était déjà dit.
Ouais, c'est ça. Puis après ça.
Ben, ça tombe.
Puis on a même. Il y a des gens qui venaient nous dire qu'il y avait tous les livres de Pow Pow, puis qu'ils pouvaient pas. Il y a des gens qui ont tous les livres de Pow Pow.
Puis c'est des bons acteurs.
Ces gens-là disaient je voudrais donner à la campagne Kickstarter, mais je les ai déjà toutes. Je vois pas ce que je peux avoir de plus. Puis on a inventé un pack qui s'appelle le Future Pack. Puis ça, dans le fond, c'est que tu mets 129 $ puis tu as 5 livres dès qu'ils sortent quand tu veux.
Ah,
fait
ouais.
Que si tu peux t'acheter des livres pré-acheter. Qui sont pas encore sortis, puis ça devient comme un genre d'abonnement à PowerPow, si tu veux.
Wow. Ça fonctionne très bien parce que, comme tu disais, il y a tous les livres qui sont publiés par PowerPow viennent avec cette étampe d'approbation de Luc Bossé. Puis là, les gens savent qu'on peut faire confiance aux 5 prochains livres.
Oui, absolument.
Puis on sait qu'il va être bon, là. Ah.
Je pense que oui.
Moi, moi, je suis convaincu.
Ben, right. That's the spirit. Ta candeur t'honore.
Non, mais c'est vrai que ça va être bon. Ça va être très bon. Ça l'est très bon. C'était très bon.
Mais ta candeur t'honore quand même.
Je pense qu'on va se faire envahir par Alexa. Ah, c'est ça, Alexa? Non. Non, c'est pas la Jean-Jean? Bah. Ah, c'est un adhéré manga.
C'est ça, il fallait-tu.
Je pense qu'on a fait le tour, oui.
J'ai pas trop divagué. Je voulais
pas du tout. Tu freestyler quelque chose. Moins 5, on est correct.
Ah.
Parfait.
Mathieu, t'avais-tu.
Moi, j'ai fait le tour. Mary Wept Over the Feet of Jesus de Chester Bond, sa dernière BD. Très, très bien, si vous aimez ce qu'il fait.
Tout Jean-Paul, tout le temps. All day, every day. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Alexandre, de prêter l'exercice. On va aller freestyler un peu dans le parc.
Là, je m'en vais, je retourne à la table.
On va aller freestyler à la table de Pau-Pau.